terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
La diversité fait la force du Canada. En cette période de l'année où nous célébrons le mois du patrimoine asiatique, nous saluons les importantes contributions que les communautés chinoises au Canada apportent à notre tissu national. Depuis la fin des années 1800, lorsque de nombreux immigrants chinois sont venus au Canada et ont risqué et sacrifié leur vie pour aider à construire le chemin de fer du Canadien Pacifique, jusqu'à aujourd'hui, quand de remarquables Canadiens d'origine chinoise comme la 26e gouverneure générale du Canada, la très honorable Adrienne Clarkson, rendent des services inestimables à notre pays. Les personnes d'origine chinoise partout au Canada ont façonné notre histoire et continuent à faire de notre pays un meilleur endroit où vivre. En réfléchissant avec regret à l'héritage honteux de la loi d'exclusion des Chinois, nous réaffirmons notre volonté d'apprendre des erreurs de notre passé afin de mieux agir aujourd'hui. Ensemble, nous lutterons contre le racisme envers les personnes asiatiques et contre toutes les formes d'intolérance, de haine et de discrimination. Ainsi, nous bâtirons un Canada plus fort, plus inclusif et plus équitable pour les générations à venir. Fin de citation. C'est pas de moi. J'aurais bien aimé dire un texte comme ça. C'est un extrait de la déclaration qu'a faite aujourd'hui, 14 mai 2023, le premier ministre Justin Trudeau, à l'occasion d'un, alors je sais pas s'il faut dire un anniversaire ou une commémoration, pardon, c'est celle du centenaire de la loi, qu'on appelle comme ça de manière très vulgaire, la loi dite chinoise, mais qui est la loi d'exclusion. On s'est servi, et je le dis de manière un peu honteuse, de ce prétexte, mais aussi celui du mois d'histoire des Noirs, ben pour parler un peu, par un biais, un prisme, mais vraiment un prisme tout petit, de ce mois du patrimoine. On a invité Claudia Chantac, qui est une artiste pluridisciplinaire, et nous l'avons invitée au-delà de son propre parcours, surtout pour une initiative. Je lui dis d'abord bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'être là. On l'a invitée pour parler d'elle, son parcours, mais surtout d'une initiative que nous avons trouvée très intéressante, qui date quand même, je me suis rendu compte, d'à peu près 2 ans. C'est l'idée de créer un bottin, le bottin artistique et asiatique, ou alors les termes sont inversés, c'est asiatique et artistique du Québec. Et ça, quand j'ai vu ça, mais en fait, comme un répertoire un peu des différents artistes dans les domaines culturels, on s'est dit, bon, on va se servir de ça pour discuter un peu avec elle d'où venait l'idée, au-delà de savoir un peu ce qu'elle faisait. Pendant que je faisais ce petit travail de recherche, je vais être très très honnête, encore ce matin je lisais là-dessus et je suis tombé sur un article dans le média La Converse. Un article écrit par Estelle Mi, qui est devant moi. Oui, surprise, c'est ce matin que j'ai vu l'article. C'est ce matin que j'ai essayé de rentrer en contact avec elle en lui disant, est-ce que entre 14h et 14h20, il n'y a pas une possibilité de dire... Elle a dit, ok, je viens. Et elle est devant nous. Donc vraiment, je lui dis merci aussi.
Merci à vous.
Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation pour en parler. Merci à toutes les deux. On a entendu cette déclaration. Allez, pendant que nous parlons, allez dans la Converse. L'article, là, on va aussi le mettre en lien sur la page de Néo-Québec, mais allez dans la Converse, vous allez voir cet article-là qu'elle a écrit, qui a pour titre « Choisir ses immigrants ». C'est ça, « Choisir ses immigrants par l'exclusion, rendre visible l'oppression historique des Chinois au Canada ». Donc voilà un peu l'idée. Mais je vais commencer par Claudia, artiste, comme je l'ai dit. Alors quand on présente, on dit artiste pluridisciplinaire. Je voulais d'abord dire danseuse, mais après j'ai vu tout ce qu'il y avait autour, puis j'ai dit ok, artiste pluridisciplinaire. Alors, si moi je vous demandais, ok, vous qualifieriez comment, vous direz quoi?
En fait, je dirais artiste pluridisciplinaire, mais toujours autour du corps et du mouvement. Je pense que ça reste mon noyau et mon coup de cœur principal.
C'est ça qui me tue avec les artistes, c'est-à-dire qu'ils te sortent toujours des formules qui te artiste pluridisciplinaire, mais axé autour du corps et du mouvement. D'accord, ok. Je prends. Et vous le faites depuis quand même, depuis de nombreuses années.
En fait, j'ai commencé en art visuel. Ben, j'ai commencé à danser à 3 ans, comme toutes les petites filles.
J'ai bien fait de dire danseuse.
Oui, tout à fait. Ouais. Puis après ça, j'ai étudié en art visuel et je me suis rendu compte que je mettais de la danse dans tous mes projets. Alors, je me suis dit, ben là, j'ai étudié, réfléchi, compris l'histoire de l'art visuel. Il faudrait un peu que ma formation se fasse aussi autour de la danse pour que je puisse l'utiliser de façon adéquate ou sensible à travers mes œuvres. Et là, en allant étudier la danse, ça l'a ouvert les portes qu'il fallait ouvrir pour que je puisse éclore. Et c'est pour ça que maintenant, tout ce que je fais tourne autour de la danse, du mouvement. Quand je suis derrière la vidéo, derrière la caméra, c'est pour filmer les corps, filmer du mouvement, filmer de la danse. Quand je travaille dans le milieu du théâtre, c'est pour aller voir le corps des interprètes sur scène et de réfléchir c'est quoi ce corps, cette histoire, ce lien au texte. Donc, c'est pour ça que je dis que toute ma pratique se fait autour du mouvement.
Ce qui veut dire que vous ne... Par exemple, quand vous parlez de vidéo, vous ne faites pas... vous n'allez pas filmer un spectacle ou de corps ou du moins une prestation de danse comme moi j'irai la filmer. C'est votre regard de danseuse est derrière, il y a des choses que vous voyez que moi je ne vois pas.
Mais je pense que les collaborations que j'ai faites en tant que vidéaste, on m'a approché justement avec cet œil de chorégraphe parce que je pense que je filme différemment les corps que d'autres vidéastes avec d'autres backgrounds parce que justement je connais le mouvement de l'intérieur, j'ai été entourée de danseurs et danseuses pendant des années. Donc, il y a cette espèce de sensibilité-là que je pense qui me rend un peu unique avec mon œil. En tout cas, j'ose espérer.
Ben non, je vous l'aide. Je pense que c'est assez valorisé. La preuve, ce sont les récompenses que vous avez déjà eues. Le prix William Douglas, le prix Mécène investi pour les arts, le prix en vol. Voilà, je sais aussi que là, vous étiez en train de travailler avec le Conseil des arts du Canada sur un projet. Alors, il faut que vous m'expliquiez ça, mon Instagram Takeover.
Oui, c'était un Instagram Takeover. C'était mon premier...
Pourquoi vous riez autour de moi quand je dis...
C'était mon premier contrat comme influenceuse. Okay. J'étais très contente.
C'est
un peu dans ma to-do list de vie un jour, mais c'est une super belle initiative du Conseil des arts du Canada pour le mois du patrimoine asiatique d'engager des artistes et de les rémunérer pour se mettre en valeur à travers leurs médias sociaux. Donc ça, c'est génial parce que ça me donne accès à un bassin de spectateurs que je ne connais pas, mais aussi de prendre le temps de mettre en valeur le travail que j'ai traversé au fil des années, mais aussi les rencontres artistiques que j'ai faites, ça m'a fait un très grand bien de mettre de la lumière sur toutes ces collaborations et ces projets. Ça a été un 2 jours intensifs de photos, de stories, de textes pour accompagner, mais ça, c'était vraiment le fun. J'ai aimé ça. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Une question me vient. Je rappelle, vous êtes, alors, chinoise, non. Comment on dit ça? Chinoise malgache, c'est ça?
Oui, mais je suis née à Québec, okay. Mais de parents d'origine malgache chinoise.
Malgache chinoise, c'est ça. Mais vous êtes née à Québec,
oui.
D'accord. J'essaie de voir quel est l'héritage, comment dire ça, de ce métissage entre les deux dans votre regard par rapport à ce dont on parle. Lorsqu'en 2020, vous décidez de lancer le bottin des artistes, c'est pourquoi?
En fait, le bottin a été en réaction à plusieurs besoins de crier viscéral, mais étant pas une personne qui crie de nature, j'avais besoin
Sauf
de
le
faire...
Corps.
Sauf le corps qui
voilà.
crie. Oui, ça,
je c'est commence
sûr.
À comprendre.
Tout à fait. Mais j'avais envie de répondre créativement et de façon simple à différentes choses qui me fâchaient ou qui me rendaient très triste dans le milieu. Et c'est... Un, par rapport à tout ce qu'on dit sur le fait que les artistes dits de la diversité ne sont pas présents, n'existent pas, et c'est pourquoi on ne les voit pas. Ça, c'est le plus grand mensonge auquel je voulais répondre. Et ça a été aussi en réaction, un, à l'accumulation du racisme vécu suite à la pandémie et au mouvement Stop Asian Hate, qui m'a beaucoup atteint. Et aussi, ça a été une réaction très, très vive à la fusillade qui a eu lieu aux États-Unis, où beaucoup de femmes asiatiques ont été malheureusement tuées. Et pour moi, ça a été un grand choc. Et j'ai voulu transformer cette crise-là, cette crise identitaire-là, en quelque chose de créatif et de beau. Et là, je me suis dit, ben, je vais juste faire un bottin sur Facebook, tout simplement, de photos de gens asiatiques, puis peut-être que ça va me permettre d'en connaître d'autres, puis juste pour dire qu'on existe. Fait que là, j'ai écrit à des amis que j'avais. J'aurais dit, je vais lancer cette initiative-là, si vous pouviez m'envoyer une photo, comment vous vous identifiez comme personne, comme identité culturelle et comme personne artistique, et de me donner les crédits de votre photo. Et là, j'ai posté 10 photos, une à chaque jour, et après ça, j'ai commencé à recevoir plein de références.
Qu'est-ce que vous avez découvert?
J'ai découvert tellement de monde magnifique que après ça, ça l'a juste en fait créé des liens. J'ai pu travailler avec ces personnes-là après, et donc ne plus être la seule asiatique sur n'importe quel projet artistique, ce qui est essentiel et qui était inexistant il y a quelques années. Et aussi, ben, je pense que ça l'a créé des bourgeons de projets, ça l'a ouvert des liens, puis ça l'a, ben, c'est ça. C'est juste une preuve visuelle que on est là, on est sur scène, on est derrière la caméra, on fait des affiches, on travaille dans les organismes culturels, donc on est là puis on mérite d'être vu, donc c'est vraiment une célébration de nous.
Non, allez-y, je communique par des signes, ne vous inquiétez pas.
Puis c'est ça, j'ai lancé, je dirais, une première vague de photos il y a 2 ans. Et encore aujourd'hui, on me parle de ce bottin-là, de l'impact que ça a eu dans le milieu. À chaque mois, je reçois des messages pour des références de gens qui cherchent à engager des personnes asiatiques pour des projets X et pour des raisons X. Et là, je me suis dit, ben là, c'est tellement beau, il y a tellement de gens encore que je dois connaître et découvrir, que je l'ai relancé cette année. Fait que là, on est rendu à une 60aine de photos, puis j'en ai plein en réserve qui s'en viennent tout au long du mois de mai.
J'ai la prétention de te dire que je fais partie un peu de l'armée invisible qui lutte pour qu'il y ait plus de diversité, mais alors dans tous les domaines. Et à chaque fois, j'essaye de trouver, dès qu'il y a une ouverture quelque part, je dis, ah, si, il faut parler de ça. Et j'avoue que quand j'ai ouvert le bottin, ma réaction a été, mais c'est pas vrai. À Montréal, il y a autant d'artistes dans différents domaines d'origine asiatique. Mm-hmm. Et ma question a été, mais ils sont où? Ils sont où?
Ben, on est là, mais on n'a juste pas la place dans les médias.
Il n'y a pas d'opportunité.
Et dans le paysage culturel. Ben, les gens qui sont dans mon bottin, ils sont tous des artistes professionnels. Mmh. Donc, ils vivent en partie ou complètement de leur métier, mais on ne parle pas d'eux. En fait, au Québec, la diversité, malheureusement, manque de diversité. C'est ça qui est dommage. Et je pense que c'est de plus en plus important.
Oui.
C'est de plus en plus important qu'on montre qu'on est là. Mm-hmm. Puis quand on regarde dehors, ben c'est ça qu'on voit. Puis des fois, j'aimerais ça qu'une programmation télévisuelle, cinématographique ou scénique, ben ressemble à mon bottin. Mm. C'est tout.
Exactement. Mais j'ai découvert des choses, mais des personnes. Je préfère vraiment des personnes avec des parcours complètement fous dans des domaines auquel j'aurais jamais pensé. Et en fait, je me disais, mais sûrement que je les crois tous les jours quand je passe à Montréal, mais je ne sais pas qu'ils sont artistes. Juste une petite dernière question. Le mois, par exemple, comme ça, le mois du patrimoine asiatique, en quoi il contribue à plus de visibilité pour, par exemple, ce que vous faites avec le bottin?
Ben, je pense que ça contribue en grande partie sur les médias et dans la scène des arts vivants. Je pense que soudainement, on nous laisse un peu plus de place. C'est sûr que j'aimerais ça avoir cette place-là toute l'année, mais si on la condense en un mois, c'est aussi le fun de célébrer entre nous intensivement pendant un mois. Donc, il y a cette espèce de raison de prendre ce mois-là pour célébrer ensemble avec intensité. Moi, ça me donne beaucoup de fierté. Puis surtout, en plus, c'est au début du printemps, du beau temps qui revient. Fait que je trouve que c'est comme le meilleur mois pour célébrer notre identité. Mais je pense que c'est important et essentiel juste pour rappeler que malheureusement, tous les combats ne sont pas, un, nommés, mais deux, gagnés. Donc, prenons ce mois-là pour en parler, puis prendre parole. Puis encore une fois, dans l'espace médiatique, on est tellement pas présent que je pense que c'est important qu'au moins ce mois-là, on ait notre place.
Tout à fait. Claudia, vraiment, de manière très modeste, dans cette émission, nous, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que plus on a des gens qu'on peut inviter, des artistes qui peuvent apporter un regard comme ça, ben c'est bien, on dit, on est né au Québec, on parle diversité, mais c'est aussi cela. Sans tout connaître, mais au moins avoir de temps en temps une mise en avant. Mais bravo pour ce que vous faites. Je me tourne rapidement vers Estelle Mi, je rappelle, encore journaliste. Je dis juste à Léo, Léo, c'est... le technicien de l'émission. J'ai dit à Léo, oui Léo, j'entends tout ici. Léo, donne-moi encore quelques minutes s'il te plaît, très très important. Voilà, vous comprenez comment se fait la radio, parce que Léo me parle dans les oreilles. Cyril, tu as 2 minutes. Cyril, tu as 2 minutes. Bon, Cyril, j'arrête de parler parce que je prends les 2 minutes. Je me tourne vers Estelle pour lui dire bonjour. Vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation dernière minute. Ouais. Ça fait vraiment plaisir, mais je suis tombé sur cet article-là. Choisir ces immigrants par l'exclusion, rendre visible l'oppression historique des Chinois au Canada. Il n'y avait pas mieux pour planter le décor, et ça tombait qu'aujourd'hui, nous sans le savoir, nous, bah, on est là les dimanches, mais il s'avère qu'aujourd'hui, c'est effectivement la date centenaire. Vous êtes journaliste pour La Converse. Comment vous dire, je ne vais pas raconter votre article, il faut que les gens aillent le voir, aillent le lire. Moi, je vais pas, comment Malia dit quoi, spoil, je veux pas spoil du tout l'article, il faut vraiment spoil. Que les gens aillent le lire, mais voilà. Parlez-moi de vous un peu, 2 minutes quand même. Allons-y, on a le temps. Vous êtes journaliste pour La Converse depuis combien de temps?
À vrai dire, je viens de commencer.
Ok.
Et voilà.
Bonjour Leïla. Leïla Salic, qui est l'éditrice de La Converse.
C'est ça. Mais ce que je trouve qui m'a vraiment appelée dans La Converse, c'est vraiment cette idée que voilà, il faut donner la voix aux personnes qui sont vraiment concernées. Et ce que je voyais dans le paysage médiatique, vraiment au Québec, c'est que on parle beaucoup, même de si on parle de cette loi, c'est très théorique, c'est très des idées qu'on balance comme ça, mais on comprend pas vraiment la réalité des personnes qui y vivent. Et dans cet article-là, ce que je voulais vraiment donner, c'est mettre en valeur les voix des personnes qui ont subi des conséquences de cette loi. C'est très bien, Justin Trudeau, de parler qu'on célèbre le centenaire de la loi d'exclusion. Mais il faut comprendre comment, par exemple, quand je parle de Timothy Chan, qui est ce sino-canadien de 87 ans, qui a vécu la loi et qui est vraiment un des derniers survivants de ces conséquences-là. Et je pense que c'est important, oui, de donner la parole, et c'est ce qu'on fait à La Converse. Ouais.
Qu'est-ce que vous, jeune femme d'origine chinoise, avez découvert en allant, par exemple, faire cet article-là, donc tout le travail de recherche, c'est ce que vous-même vous avez découvert?
Moi, ce que j'ai découvert, c'est vraiment l'aspect, les conséquences humaines de ce que ça a impliqué. Parce que quand on parle de cette loi, on parle aussi beaucoup de l'aspect économique. Donc ces personnes ont dû payer en fait des taxes d'entrée pour entrer au Canada. Mais plus grandement, c'est vraiment le fait qu'ils ont perdu les liens avec les familles qui sont restées en Chine. À vrai dire, c'est vraiment ça le trauma en fait de la communauté chinoise. C'est que, je donne un chiffre, en 1941, on compte environ 29 000 personnes chinoises, dont 80% des hommes, qui sont la plupart des hommes chinois, ont des femmes restées en Chine et des enfants restés en Chine. 80%. Donc, ce qu'on appelle vraiment une communauté de, en anglais on dit married bachelors, ce serait des célibataires mariés. C'est ça, c'est des personnes qui se regroupent ensemble parce que c'est la solitude qui les traverse. C'est vraiment ça qui les traverse. Et c'est ce que William Deere, dans l'interview que j'ai donnée, raconte. C'est son père, son grand-père qui est resté ici. Et la seule façon de survivre, c'est d'ouvrir une buanderie et de contacter les autres personnes chinoises de cette manière-là. Donc voilà, ce que je veux vraiment mettre en valeur dans cet article, c'est les voix de ces personnes-là qu'on entend vraiment...
Très peu
dans les médias. Et c'est tout l'aspect du patrimoine asiatique. Et c'est ce que Claudia a très bien dit. C'est donner et mettre en valeur les personnes asiatiques qui ont contribué au Canada. Parce que comme on avait dit aussi, ils ont contribué au chemin de fer, ils ont contribué à tous ces accomplissements de la nation. Ouais.
Est-ce qu'on en parle dans les familles chinoises de cette période-là?
Oui.
On en parle?
On en parle beaucoup. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert avec William, c'est que si on regarde en fait la façon dont les familles sino-canadiennes qui sont là depuis des générations, ils remontent tous leur parcours d'immigration, leur histoire familiale à cette taxe d'entrée, à cette loi d'exclusion. On voit souvent aussi dans les familles garder ces certificats de taxe d'entrée pour commémorer une certaine façon. Ben voilà, on a vécu ici au Canada dans cette période-là, mais on a été pas traités comme des citoyens. On n'était pas des citoyens. On ne pouvait pas, parce qu'on était chinois. Donc, c'est remémoré.
Et est-ce qu'il y a du... Par exemple, là, je sais que j'ai pas tout écouté, toutes les entrevues. Est-ce qu'il y a du ressentiment ces personnes ont du ressentiment dans le sens où il y a une forme de haine, de rage, de colère interne gardée ou...
Je pense que c'est plus un acte de résistance, encore une fois.
Okay.
Je pense que c'est pas une haine profonde, c'est le fait de d'avoir ce sens d'appartenance au Canada, mais commémorer son parcours d'immigration. Parce que être canadien, comme William le dit, c'est être sino-canadien pour lui. C'est pas être franco-canadien, c'est pas être anglo-canadien. C'est montrer, c'est affirmer son identité.
Son identité chinoise, tout
exactement.
À fait. C'est-à-dire qu'elle est différente de franco-canadienne, différente de anglo, et tout. Est-ce qu'on, aujourd'hui, on en parle peut-être, je dis bien peut-être, de plus en plus. Est-ce qu'on va aller vers ça? On va aller peut-être plus vers une mise en avant de cette période, la reconnaissance de cette période-là.
C'est ce qu'on espère. Ouais. C'est ce qu'on espère avec la communauté, parce que comme on l'a vu avec la pandémie, en fait, rien n'est gagné.
Tout à fait.
Rien n'est gagné.
Parce qu'il y a eu, ça, oui.
La communauté asiatique a tellement souffert pendant cette période-là, et en fait, toute cette période-là, toute cette reconnaissance historique, c'est pour, comme a très bien dit encore une fois Claudia, c'est que la lutte n'est pas gagnée. Il faut toujours, toujours faire ce travail-là de reconnaissance. Historique et de reconnaissance de notre communauté et de nos voix à part entière. Oui.
Je rappelle encore cet article, j'aurais tellement aimé parler avec vous plus longtemps que ça, mais je le rappelle, l'article il est vraiment là, choisir ces immigrants par l'exclusion, c'est dans La Converse, c'est pas compliqué, laconverse.com, allez lire cet article là, et puis vraiment à toutes les deux, Estelle, Claudia, je vous remercie d'être venue nous parler, et j'allais dire quelque chose juste pour nous, mais les micros sont ouverts, donc je ne peux pas le cacher. La porte est ouverte. Mais vraiment, non, la porte est ouverte. Venez nous dire, venez nous parler, venez participer, venez contribuer. Je ne demande que ça. Quand vous êtes entré là, je vais le dire aux gens. Hein. Moi, je suis allé faire un tour. Bon, c'était déjà, vous étiez en place. C'est une famille, c'est un esprit qu'on a tous ensemble comme ça, mais vraiment venez apporter nous aussi votre regard, votre façon de faire, parce que oui, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. On veut rentrer. Moi, je veux en parler un peu plus de ce qui se passe dans les communautés asiatiques, mais j'ai peut-être pas tous les codes, j'ai peut-être pas toutes les portes d'entrée. Et si vous êtes disponible, franchement, venez remplir. Bon, je vois déjà des signes. On a notre deal. Merci
ça.
Encore
merci
à toutes les deux. Bravo
beaucoup
pour le travail que vous faites. Et puis, nos amitiés à Leïla Savitch de la Converse.com. Allez sur Facebook, parce que c'est sur Facebook. Pour le moment,
exactement.
Allez voir ce beau teint. Puis, quant aux directeurs de casting qui disent on ne sait pas où ils sont ou on ne sait pas où elles sont, à eux. Merci à vous. On fait une pause et puis on continue notre émission.
Néo Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.